Oui, merci beaucoup. C'est chouette de pouvoir louer comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous propose de regarder un livre de la Bible. Tout un livre. On va pas tout lire, hein, c'est un peu long. Un livre qu'on utilise souvent sans forcément en avoir conscience. Je vous propose de regarder ensemble l'ensemble du livre des Psaumes. C'est marqué derrière moi en plus. Alors, dans vos Bibles, le livre des Psaumes se trouve en général après les prophètes ou après les chroniques et avant le livre des Proverbes. Et il contient 150 petits poèmes. On est à peu près sûr que les psaumes qu'il y a dans la Bible, c'était des chants à l'origine. On retrouve parfois des indications musicales. Par exemple, le premier verset du psaume 88, il dit ça: Chant, psaume des descendants de Corée, au chef de chœur à chanter sur la flûte, cantique d'Hémen l'Ezrachite. D'accord. Donc, c'est un chant, ça se chante avec un chœur, avec la flûte, c'est un cantique. Les chants étaient des psaumes. Parfois aussi, il y a marqué pause ou Selah dans certains chants, comme sur une partition de musique. Et les psaumes, ils sont importants pour différentes raisons. Notamment, ils sont beaucoup cités dans le Nouveau Testament. Ils contiennent beaucoup de prophéties, notamment sur Jésus. Et puis, ils contiennent aussi des mots qu'on connaît, comme Alléluia ou Hosanna. On trouve ça dans les psaumes. Alors, un petit quiz comme ça, qui c'est qui a écrit les psaumes? David, plusieurs. Salomon, Moïse, Asaph, les descendants de Corée, et plein d'auteurs anonymes. C'est même possible que certains psaumes aient été attribués à des gens qui ne les ont pas vraiment écrits. Il y a beaucoup de monde qui ont écrit des psaumes. Et puis, de quand ça date tout ça? Avant Jésus-Christ, j'aime bien cette réponse. Exactement. Alors historiquement, on est à peu près sûr que les psaumes ont été écrits sur une très longue période et c'est très très vraisemblable qu'avant d'être écrits, ils étaient déjà chantés. Qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, ah ben, je vais écrire ce psaume-là. Et le livre des psaumes dans la Bible, c'est un peu un assemblage de plusieurs recueils de psaumes qui circulaient déjà dans l'Israël ancien et qui ont été rassemblés, édités ensemble. C'est comme si on faisait un seul gros livre avec le Djem 1, le Djem 2, le Djem 3, avec l'unisson, avec les partitions sur chir, tout ça, et qu'on faisait un livre. Et parfois, dans le livre des psaumes, il y a un ou deux endroits où on voit encore comme le collage. Par exemple, le psaume 72 se termine comme ça: Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Okay, donc manifestement, il y avait un recueil de psaumes qui s'appelait les prières de David. Et puis le psaume 73 continue après avec d'autres psaumes. Un autre exemple, c'est le psaume 14 et le psaume 53. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que ça pourrait être la grande différence entre le psaume 14 et le psaume 53? Bon, c'est une question qui a l'air compliquée, mais en fait, elle est simple. C'est exactement le même psaume, mot pour mot. Apparemment, ce psaume se trouvait dans deux recueils différents qui ont été collés ensemble. Puis du coup, il y a un psaume qui vient deux fois dans la Bible. Donc, d'une certaine manière, le livre des psaumes ressemble un petit peu à un grand sac de partitions où toutes les partitions qui étaient chantées, qui étaient appréciées, ont été mises ensemble. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament écrit en grec et dans l'Ancien Testament écrit en hébreu, la numérotation des psaumes n'est pas tout à fait la même. Ce qui fait que dans certaines Bibles, vous avez déjà vu qu'il y a deux numéros de psaumes pour chaque psaume. Alors, le contenu est exactement le même, mais la numérotation change. Et là, vous êtes en train de me dire, bon, Antonin, il n'est pas très respectueux avec la parole de Dieu, hein, en traitant les psaumes de gros sacs à partition. Et pourtant, j'aimerais, avec vous, aiguiser votre regard sur quelque chose d'assez merveilleux dans les psaumes. Le psautier, c'est une collection de textes rédigés par différents auteurs sur une très longue période de temps, édités, réédités, rassemblés. Et pourtant, il y a un truc extraordinaire, c'est que l'ensemble, le psautier dans son ensemble, forme un tout cohérent avec un grand mouvement qui va de l'homme vers Dieu. C'est très frappant si on regarde notamment le début et la fin. Premier verset du psautier, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. C'est « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Okay, il est où là-dedans, Dieu ? Il n'est pas encore là, il va venir un peu après. Et le psaume 1 porte sur cet homme-là. Et à l'inverse, le tout dernier psaume, le psaume 150, il se termine avec ces mots-là, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Louer l'Éternel en hébreu, ça se dit Alléluia. Donc, en fait, tous les psaumes du début du psautier sont très centrés sur l'être humain. J'observe, je subis, je souffre, j'ai besoin de refuge. Et tous les psaumes de la fin du psautier sont très centrés sur Dieu et commencent avec ces paroles Louer l'Éternel. On voit ça aussi avec deux psaumes qui pose une même question. Il y a un psaume qui se trouve au début du psautier qui pose la question. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Vaste question. Et qu'est-ce qui répond au psaume 8 ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Hey ! Donc homme, c'est aussi femme. Hein. Je crois que c'était clair, mais je le précise encore. L'humain, c'est presque Dieu. Wow, puis ça commence avec « je dis », ça « je est un humain ». Puis la même question revient plus tard, presque à la fin. « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu penses à lui ?» Même question. La réponse par contre, « l'homme est pareil à un souffle et sa vie passe comme une ombre. » L'homme s'efface progressivement devant Dieu, l'humain s'efface progressivement, ou plutôt Dieu prend la place de l'être humain. C'est ce qui arrive au cours de la longue prière des psaumes. La destinée de l'être humain qui se tourne vers Dieu, c'est de disparaître progressivement. Disparaître à lui-même pour devenir à l'image de Dieu, habité par Dieu. Bon, alors ça, c'est un processus un peu naturel. Hein. On se met à ressembler aux gens qu'on côtoie. Depuis qu'on est marié avec Séverine, j'ai repris de ses expressions, elle a repris des miennes. J'ai passé 2 ans à Bienne, des fois ça s'entend avec les R que je dis. Depuis que je connais Nathalie et Nicolas, il y a des j'ose et des du coup qui viennent en plus dans ma façon de parler. Peut-être qu'il y a d'autres. Puis, aussi, hein, quand je rentre chez moi, des fois je dis j'avoue ou bien de ouf. Ça, c'est depuis qu'on a le groupe de jeunes. De la même manière, plus on est proche de Dieu, plus on se met aussi à ressembler à Dieu. Il y a plus que ça. En s'approchant de Dieu aussi, non seulement on se met à lui ressembler, mais en plus il nous transforme. Une transformation plus profonde et plus fondamentale. Paul a écrit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est plus moi qui vis. Alors n'ayez pas peur, hein, vous n'allez pas disparaître. Ce n'est pas ma personne qui disparaît, c'est ce qu'il y a de mauvais en moi. Je reste le même, mais je deviens une meilleure version de moi-même. Je deviens Antonin 2.0. Quand on décide de suivre Jésus, de s'approcher de Dieu, on crucifie nos péchés, nos passions à la croix de Jésus. Et par lui, on vit une nouvelle naissance. C'est notre vieille nature humaine qu'on crucifie et c'est Dieu qui naît en nous. De sorte qu'on devient rayonnant de l'amour de Dieu. Ça, c'est le plan. On appelle ça la sanctification. On devient de plus en plus saint. Et c'est un long projet parce que comme Dieu est infini, infiniment grand, eh ben, grandir en Dieu, c'est un travail qui est infini aussi. Mais c'est un travail qu'on est invité à poursuivre. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et ça se fait en passant du temps avec Dieu. prenant du temps avec Dieu à prier, et notamment les psaumes sont des prières et des louanges. Et quand on se les approprie pour notre prière, ben on passe du temps avec Dieu. Donc le livre des psaumes, dans son ensemble, il nous parle de Dieu qui grandit en nous. D'une certaine manière, c'est donc un excellent livre de développement personnel. Les psaumes. Ce grand mouvement de l'homme vers Dieu, il nous dit aussi autre chose de la Bible. On l'a dit, 150 psaumes, écrit par des gens différents, à des époques différentes. Le tout a été édité, réédité, accolé. Et pourtant, on l'a vu, l'ensemble forme un tout cohérent. Et ça, c'est quand même incroyable. Pour moi, c'est un exemple de l'inspiration de la Bible. Derrière chaque main qui rédigeait un psaume, derrière chaque personne qui transmettait oralement un psaume, derrière chaque personne qui éditait un recueil de psaumes, il y avait le Saint-Esprit qui inspirait. Alors peut-être que pour certains, il y a le Saint-Esprit qui a rédigé exactement les mots à écrire, puis la personne écoutait. Peut-être que pour d'autres, ils pensaient qu'ils avaient des bonnes idées, puis ils les ont mis par écrit. Derrière tout le monde, là, il y avait le Saint-Esprit qui inspirait cette Bible. Et le tout forme un tout cohérent. Saint Paul, encore lui, écrivait à Timothée, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Voilà pourquoi on prêche la Bible. On la croit inspirée de Dieu. Elle permet de connaître le Dieu d'amour, de connaître le Christ Sauveur, de connaître l'Esprit Saint qui nous habite. Elle nous enseigne sur ce qui est important. Et plus j'étudie la théologie, plus je suis convaincu de la solidité de l'enseignement qu'on trouve dans la Bible. La Bible nous aide à devenir des meilleures versions de nous-mêmes, et ça, c'est plutôt cool. Évidemment, Dieu nous parle encore aujourd'hui, de différentes façons, autres que la Bible. Quand on le prie, on peut recevoir des choses de la part de Dieu. Mais la Bible reste le moyen privilégié de connaître Dieu. Elle reste la boussole pour discerner sa volonté, la lampe sur mes pieds, le phare sur ma route. Elle est l'élément immuable qui permet à ma croyance de ne pas dévier. Je m'explique. Tout ce que je crois recevoir dans la prière, je peux l'évaluer à la lumière de la Bible pour discerner si c'est quelque chose qui sort de mon imagination ou bien si c'est peut-être bien Dieu qui me parle. La Bible, elle est aussi exigeante. Exigeante, hein. En tirant une parole hors de son contexte, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et ça, c'est aussi vrai de la Bible. En tirant un verset de son contexte, puis en le sortant comme ça, on peut faire dire n'importe quoi, puis on dit « Oh, la Bible dit ça ». Non, on a tiré un verset hors de son contexte. On doit faire attention d'écouter ce que la Bible nous enseigne plutôt que de chercher à y trouver des versets qui vont confirmer nos préjugés. C'est vraiment un risque réel dans les milieux évangéliques. Parfois, on entend des enseignements qui citent plein de versets de toute la Bible pour défendre une idée, et cette idée-là, elle ne correspond pas forcément à l'ensemble de la Bible ou pas forcément à l'enseignement de Jésus. Alors je répète parce que c'est important, on devrait faire attention d'écouter ce que la Bible nous enseigne, ce que toute la Bible nous enseigne, pris dans son ensemble, plutôt que de chercher à trouver des versets qui correspondent à ce qu'on croit déjà, à ce qu'on pense savoir, à ce qu'on pense être des bonnes idées. C'est pour ça que très souvent, quand je prêche, je prends un grand texte biblique, et puis ça ressemble un peu à une étude biblique, parce qu'au fond, j'ai un peu peur de vous prêcher mes bonnes idées à moi et de ne pas vous prêcher la Bible. Alors j'essaie de rester aussi près que possible de la Bible, ce qui est plutôt compliqué à faire quand on veut prêcher sur un livre de 150 psaumes, comme aujourd'hui. Mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et c'est important de la prendre dans son ensemble. Et c'est ce que je voulais aussi illustrer en prenant l'ensemble du livre des psaumes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre l'émerveillement pour ce truc-là. Ce truc-là qui a été rédigé par de nombreuses personnes à travers les siècles et qui forme un tout cohérent avec un seul message. Dieu nous aime et il nous sauve de la mort éternelle. On peut s'émerveiller de la Bible. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les psaumes? Ah, on peut se connecter à Dieu. Voyons voir ça. De nombreux psaumes contiennent aussi en eux-mêmes un mouvement de l'homme vers Dieu. Il y a par exemple des psaumes qui commencent avec « Je souffre, Seigneur !» et puis qui se terminent avec « Louez le Seigneur, il est fort, il est puissant !» Et en fait, il y a différentes sortes de psaumes. On peut même les classer. Il y a des psaumes de lamentation ou pour pleurer. Il y a des psaumes à propos du roi. Il y a des psaumes à propos du Christ. Il y a des psaumes avec de la sagesse dedans. Certains psaumes servaient même à des utilisations liturgiques lors de cultes. Par exemple, les psaumes 120 à 134 commencent avec ces mots « chant démonté ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand les gens montaient à Jérusalem pour un pèlerinage, ils chantaient ces psaumes-là. Ok, donc il y a des psaumes utilisés dans les cultes à l'époque. Jésus a chanté des psaumes avec ses disciples. On voit ça dans les évangiles de Matthieu, de Marc. L'apôtre Paul, encore lui, recommande aux Colossiens et aux Éphésiens d'utiliser les psaumes. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On peut prier avec les psaumes et je trouve que c'est même une bonne idée de le faire. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Est-ce que vous avez un psaume préféré ? Lequel ? Ouais. Une parole de réconfort est semblable à un arbre de vie. Le psaume 15, c'est ton psaume préféré. Quelqu'un d'autre a un psaume préféré? Le 121. Moi, j'aime bien le... Pardon? Moi, j'aime bien le psaume 23. Et est-ce que vous savez pourquoi ce psaume-là vous parle particulièrement? Vous n'avez pas besoin de me répondre, mais je crois que il y a des psaumes qui nous parlent plus particulièrement en fonction de qui on est, de notre vécu, de notre histoire. Et il y a des psaumes qui vont plus correspondre à ce qu'on a sur le cœur. Et je crois que les psaumes, justement, sont des bonnes prières pour quand on n'a pas les mots pour prier. Dans les moments difficiles, ou bien quand j'ai le cœur qui est tellement en fait que je ne sais plus quoi dire, ou quand je me questionne, ou bien quand je me sens perdu, ou pour toutes les autres occasions. Il y a certains psaumes qui, dans leur introduction, je parle beaucoup de l'introduction des psaumes, je remarque, il y a certains psaumes qui font référence à des événements précis. Par exemple, le psaume 51 commence avec ces mots. Psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ok, qu'est-ce que c'est que ça, l'adultère avec Bathsheba? On peut retrouver l'histoire ailleurs dans la Bible. On peut la retrouver en 2 Samuel 12. Et là, on peut se rendre compte de l'état de grande culpabilité qu'avait David quand il a composé ce psaume. Il venait de violer une femme et de faire mourir son mari. Pas cool, hein? Il a composé ce psaume. Alors, moi aussi, même si je n'ai pas fait des trucs aussi horribles, heureusement, il se peut que je me trouve dans un état de grande culpabilité et que je n'ose pas mettre mes propres mots sur ce que je vis. Et alors, je peux prier ce psaume pour demander pardon à Dieu. « Ô Dieu, fais-moi grâce !» Comme conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi.
Wow.
D'autres psaumes, dans d'autres thèmes, il y a des psaumes qui ont été écrits par un roi, par un guerrier ou par un homme traqué en danger de mort immédiate qui demande à Dieu d'être violent avec ses ennemis, de les tuer. Alors bien sûr, ça ne correspond pas littéralement à ma situation. Il n'y a pas un voisin avec son arc et ses flèches qui essaye de me tuer. Mais si David se plaint des ennemis qui veulent le tuer, peut-être que ça peut faire écho à quelque chose dont je souffre. Un chef qui me harcèle ou bien un voisin qui me rend la vie impossible. Et peut-être que malgré moi, j'aurais envie de souhaiter du mal à l'autre pour qu'il arrête de me faire souffrir. Et je peux trouver dans ces psaumes-là quelque chose qui me permet d'exprimer cette souffrance à Dieu. Alors, il ne s'agit pas de maudire les gens que j'aime pas. Hein. Faites pas ça, maudissez pas les gens. Mais ça permet d'exclamer mon ressenti à Dieu. Et puis, si au contraire, j'ai le cœur tellement reconnaissant pour quelque chose qui est arrivé et que les mots me manquent pour exprimer ma gratitude, je peux prendre un des psaumes de louange à la fin du psautier. Loué soit l'Éternel. Et puis, il y a aussi plein de chants de louange qu'on peut chanter. Des fois, on chante « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. C'est un psaume, ça. Il y a plein de chants qu'on chante qui sont en fait des psaumes. Alors j'aimerais vous encourager à essayer de prier avec les psaumes. Vous pouvez même essayer d'apprendre un psaume par cœur. Ça, c'est pratique, parce que comme ça, quand vous êtes dans une situation où c'est utile, vous pouvez vous réciter ce psaume à vous-même. Bien, si vous présidez un culte ou que vous faites la louange, puis que vous connaissez un psaume par cœur, vous pouvez le déclamer. Ça fait un effet quand même. Hein.